La quête des mages est vraiment fascinante et on se demande pourquoi la liturgie, cet appel, évoque les nations. Pourquoi les nations sont-elles associées à Noël, à la naissance de Jésus? Eh bien, cela tient en partie aux mages. Les mages symbolisent ces nations qui ne connaissent pas Dieu dans leur culture, dans leur religion, mais ceux-là, eh bien, sont parvenus à le découvrir et à le choisir. Alors que symbolise cette étoile qu'ils ont suivie? Concrètement, ces mages qui scrutaient le ciel ont vu d'un seul coup, eh bien, parmi les étoiles, un nouvel astre. Et ce nouvel astre dessinait une direction, invitait à le suivre. Ça, c'est le sens littéral. Le sens plus métaphorique et plus spirituel, c'est que cette étoile symbolise toujours quelque chose qui est en relation avec Dieu. Nous savons bien que c'est Dieu qui guide les mages à travers l'étoile. Mais ce n'est pas le soleil de la révélation. Ce n'est pas la Bible. Elle, la Bible, nous parle directement. Dieu nous parle par elle directement. Alors quelle était, pour ces païens, car les mages étaient des païens, eh bien quel était donc le moyen utilisé par Dieu à travers cette étoile, cet astre nouveau? Il est nouveau. Sinon, il n'aurait pas attiré l'attention des mages. Il est nouveau et il est lié à une grande espérance, eh bien, découvrir celui, le roi des Juifs, qui vient de naître, de même que l'étoile vient de naître. Ça a été pour eux un déclencheur. Mais l'étoile, en général, elle symbolise soit une intervention angélique, soit l'intervention d'un homme mu par l'Esprit Saint, d'un homme de Dieu, soit encore tout simplement, eh bien, la droite raison. La raison peut nous mener, la raison naturelle peut nous conduire jusqu'à Dieu. Cet astre, on pourrait l'appeler l'astre du questionnement. Il ne donne pas des réponses achevées comme la Sainte Écriture nous en donne. Si on voulait comparer les symboles, eh bien, la Sainte Écriture est le soleil, tandis que l'astre, lui, n'est qu'une lumière lointaine. Elle ne répond pas, cet astre ne répond pas directement aux questions, mais cet astre invite à une recherche. Chercher Dieu, c'est tout le thème du Cantique des Cantiques, c'est tout le thème qui traverse l'Écriture. C'est donc le thème de la conversion, bien illustré par ces trois mages qui se rendent à Jérusalem en suivant l'astre. La droite raison, nous devons lui faire confiance. Qu'est-ce que l'étoile finalement figure, ou qu'est-ce qu'elle réalise dans l'esprit, dans l'intelligence des mages? Eh bien, elle pose des questions. Quel est celui qui a créé toutes ces choses, cet univers qui nous entoure? Quel est le sens de la vie? On n'a pas directement la réponse. On est invité à une quête, un long voyage pour les mages, parce qu'ils viennent de loin. Leur culture ne les aide pas. Leur culture est très éloignée de celle d'une culture judéo-chrétienne. Et donc, il faut qu'ils viennent de très loin et qu'ils assument un long cheminement pour parvenir, eh bien, à Jérusalem. Ils sont vraiment dans la persévérance. Ils sont attirés par la vérité. Ils cherchent la vérité et cet astre figure cette vérité qui toujours échappe, mais qui montre une direction. Dieu agit ainsi avec l'épouse du Cantique des Cantiques. Il se montre, se fait désirer, voire même un peu toucher, puis il disparaît, l'invitant à continuer sa quête. L'épouse du Cantique des Cantiques, c'est une recherche d'amour. La quête des mages est une recherche intellectuelle. Qui est le Créateur? Si nos contemporains, Eh bien, poser cette question avec suffisamment de persévérance, il trouverait la réponse. Parce que Jésus, eh bien, l'a dit lui-même. Qui cherche, trouve. Tout simplement, Jésus n'est pas venu dans le monde pour se cacher, il est venu dans le monde pour se laisser trouver. Et cette droite raison, eh bien, peut nous conduire jusqu'à lui. L'étape, c'est celle de la confrontation avec l'Écriture sainte. C'est l'arrivée à Jérusalem. Et là, les scribes répondent à la question. Eux savent où le Sauveur doit naître. Mais ils ne savaient pas quand. Aussi, Hérode, tout Jérusalem, ce petit monde religieux est en effervescence. Comment des païens peuvent-ils savoir que le temps est arrivé pour le roi de gloire de naître? Qu'est-ce à dire? Lorsque nous consultons l'Écriture, nous connaissons la volonté de Dieu. Nous avons les grands schémas, les grandes directions, les grandes étapes de la foi, du combat spirituel. Mais le temps n'appartient pas à l'Écriture. Dieu n'a pas donné les temps. Jésus ne cesse de le dire. Ceci est réservé au Père, la connaissance des temps. Lui seul peut le faire connaître. Ainsi, il faut, pour avoir la connaissance des temps, eh bien, être mû par l'Esprit Saint, être habité par la foi réellement. Les mages, eux, n'avaient pas encore la foi, mais ils en avaient les prémices, puisque l'Esprit de Dieu les guidait à travers cette étoile. Aussi, il y avait quelque chose de vivant en eux, spirituellement parlant, tandis que chez les scribes de Jérusalem, il n'y a rien de vivant. Seule une connaissance statique de l'Écriture, mais qui ne peut pas les mettre en route. D'ailleurs, ils ne bougent pas d'un millimètre. Tout Jérusalem s'émeut. Les scribes, tous, les pharisiens, tout le monde religieux de l'époque, Hérode lui-même. Mais personne ne se met en mouvement. Les mages, eux, persévèrent. Heureux de connaître l'endroit, on a vu que l'étoile soudainement avait cessé de luire, puisque le soleil de la révélation l'avait éclipsé. Mais connaissant l'endroit, eh bien de nouveau l'étoile se montre. La raison continue, même avec la Bible, avec la connaissance biblique, d'avoir cette nécessité d'être exercée. Trop souvent, eh bien des gens se découragent à la lecture de la Bible, parce qu'ils n'ont pas tout de suite toutes les réponses à leurs questionnements. Des réponses, eh bien Dieu veut que, à l'image, à l'instar des mages, eh bien nous ayons nous aussi une persévérance dans la recherche du sens des Écritures, de ce qu'elles signifient, et faire l'aller-retour avec notre propre vie chrétienne, de foi, d'espérance et de charité, qui nous donne les temps, avec ces lieux symboliques que nous donne l'Écriture. Oui, il ne faut pas avoir peur de travailler à la sueur de son front, car c'est la loi depuis le péché originel. Il faut savoir être patient, humble et sage, donc, lorsqu'on questionne l'Écriture, tout autant que lorsqu'on questionne Dieu dans sa prière. L'Orient, symbole de sagesse, eh bien, les trois rois mages, c'est un peu la fine fleur de cet Orient qui se convertit et qui se met à chercher Dieu. Ils viennent, ils adorent enfin cet enfant qu'ils ont tant cherché et ils l'ont trouvé. Et ils lui offrent ces trois présents que nous connaissons bien, chacun son présent, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alors l'or, si on veut en faire une interprétation symbolique, c'est d'abord les richesses matérielles, c'est-à-dire tout ce qui appartient aux forces du travail dans la transformation de la matière en ce monde. Donc ça signifie qu'il faut mettre, c'est l'acte d'adoration de ce premier mage, mettre toutes ses forces naturelles au service de Dieu. Et on peut mettre ce don en relation avec la foi. Car la foi nécessite un travail de notre part. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est donné et qui vit par lui-même, comme une plante. Non, ce n'est pas seulement ça, la foi. La foi, c'est l'union de l'âme avec Dieu. Et cette union nécessite de notre part, eh bien, un travail. L'encens. L'encens, ça évoque la prière, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut mettre son espérance en Dieu. Le troisième mage offre la myrrhe. La myrrhe évoque la douleur, la passion du Christ. Et c'est le symbole de l'offrande de sa propre vie. C'est l'amour. L'amour véritable seul peut s'offrir à Dieu. Reconnaître en Dieu son véritable Père, sa destination. Au lieu de continuer à se dresser face à lui comme un être, je dirais, comme un alter ego. On pourrait mettre aussi, bien sûr, les trois mages en relation avec les trois facultés de l'âme. Donc l'intelligence dont j'ai parlé, c'est le premier trait, le grand trait commun des trois mages à travers l'étoile et l'effort de recherche de Dieu. Mais il y a aussi, eh bien, le cœur, notre affectivité. Il y a aussi, eh bien, notre personnalité, ce que nous offrons vraiment à Dieu d'une façon ultime lorsqu'on s'offre soi-même au Seigneur, comme Jésus l'a fait sur la croix. Alors tout cela, voilà, c'est encore la magie de Noël qui nous habite avec cette fête de l'Épiphanie. Et on a encore une semaine pour demeurer dans cette douceur. Et après, ce sera le baptême du Seigneur, c'est-à-dire son apparition, non plus dans une grotte comme à Bethléem, mais dans le désert où il commencera sa mission publique. Nous entrerons alors dans le temps ordinaire. Mais rien n'est ordinaire pour qui, comme les mages, savent scruter les signes des temps. Et même s'il n'y a pas grand-chose, pas plus grand qu'un petit point lumineux dans le ciel, eh bien celui qui est attentif, dont le cœur est tourné vers Dieu, saura toujours en profiter.